Cela veut dire que la seule façon, selon l'enseignement de la conscience vivante, de la moralité, c'est de se reconnaître comme créature. De se reconnaître non pas comme un être autonome, de reconnaître que l'on vit dans un monde créé par Dieu, et que là il y aura sa sème. Mais il n'est pas nécessaire à l'homme d'entrer dans la Torah. Il ne serait même pas possible à lui d'entrer dans la Torah, puisque cela, il faudrait qu'il devienne prêt. Il lui suffit d'adhérer aux lois noachiques. Et comme vous savez, les lois noachiques, il y a une grande discussion pour savoir si elles sont révélées ou non. Les sept lois noachiques qui font la moralité, et Maïmonide, de façon tout à fait claire, il dit dans Yad HaChazaka, dans le chapitre de Melachim 8.11, il faut les considérer comme révélées. Si les noachiques font les sept lois, qui sont les lois qui fondent la moralité pour toute l'humanité, en tant que simplement loi raisonnable, cela ne l'aurait pas imputé comme moralité. Par contre, s'ils appliquent une morale, en tant qu'ils savent qu'elle est révélée, pourrait être imputé comme moralité. Alors, quand je dis révélée, je dis révélée dans le cadre de la révélation. Mais cela va, comme on dit, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Donc, je ne veux pas aller plus loin. Je pense que ce petit texte me paraît intéressant dans la mesure où il présente, enfin, en tout cas, c'est un des textes qui présente de façon schématique, mais catapultée, la double possibilité universelle pour Israël et les nations d'accéder à la moralité. Mais le moyen unique d'accéder à la moralité, ce n'est pas en dehors de la Torah, pas de salut, c'est en dehors du fait de se reconnaître comme créature, c'est-à-dire être libre, mais soumis à une obligation d'un Dieu créateur, qui est la seule voie d'accès à la moralité.
Il y a des questions, s'il vous plaît.
Vous entendez?
Un tout petit peu plus fort. C'est la même question que je voulais poser ici. Où est l'amour?
L'amour de Dieu.
L'amour de Dieu.
Nous disons que ce qui garantit le fondement de l'Esprit, c'est la parole. Or, je ne peux me révéler
entre l'amour. Si tu aimes le Seigneur, que tu garderas ses commandements et ses ordonnances, si tu le dis, tu rentres dans la moralité, tu peux commencer par la prêche. L'amour devient après. Et quand on est dans la moralité, tout le monde vient de là.
Si vous permettez, je vais commencer à répondre. Non seulement je suis tout à fait d'accord avec cette problématique, mais je crois que que les éléments essentiels de réponse se trouvent déjà dans la manière dont je posais la question. Il y avait trop de choses pour que je puisse y revenir, faute de temps, mais ça me permet aussi de me relier à l'exposé de monsieur, et à la question de monsieur Roski. Je n'attendais pas à ce que nous d'éclaircir certaines nuances, mais ce fait qu'on ne trouve pas, donc, apparemment, dans le récit biblique, des situations mythiques, exemplaires, fondatrices, comme tu l'as signalé tout à l'heure, mais parce que tout simplement, dans le récit biblique, on trouve essentiellement l'équation de fraternité. Et un homme dont la conscience est subjuguée par le destin n'arrive pas, un homme moderne, comme par exemple Freud, n'arrive pas, ou Schopenhauer, okay, n'arrive pas à voir dans le récit biblique que c'est le récit de l'histoire concrète au niveau de l'existence fondateur de la conscience morale. Et alors, je vais procéder un peu par petit coup de projecteur en reprenant des citations, en commençant par la fin. La Gemara dit effectivement « Koes keilu oved avodazara ». Ça va me permettre de faire un petit tikkun. Celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Alors je vais expliquer assez rapidement l'enseignement talmudique à ce sujet. Ce n'est pas peut-être exactement une forme de l'idolâtrie, mais c'est beaucoup plus général. Bien parce que la colère, c'est le commencement de l'assassinat. C'est si on laissait l'agressivité aller jusqu'au bout, il y aurait le meurtre. Et c'est la négation que le Dieu qui m'a créé est créé aussi l'autre. C'est-à-dire que moi j'ai un Dieu et lui en a un autre, c'est déjà l'idolâtrie. Vous voyez par quel biais de la logique talmudique cet enseignement est fondé. Ce n'est pas que c'est aussi vilain qu'être idolâtre, c'est beaucoup plus grave que ça, beaucoup plus profond que cela. C'est le fait que l'agressivité, c'est la négation de l'unité du Créateur. Mais l'essentiel de sa question, c'est quelle est la relation entre l'amour du prochain, dont Rabbi Akiva lui-même, qui a dit aussi pour l'idolâtrie, a mis en évidence la place essentielle dans la Torah, et d'autre part, la notion de la relation au Créateur, et donc Yirat Shamayim, dans le langage des textes cité Michel Prince. Je veux dire un ridouche sur un verset important de la Torah. Vaydaber Hashem el Moshe, panim el panim, kaasher yedaber ish el re'eu. Et le pshat signifie que la révélation se fait, que Dieu parle à Moïse comme face à face, comme parle un homme à son ami. Mais le ridouche que je voudrais vous citer, sans changer du tout les mots, va dire le kaacher avec un autre sens hébraïque. Quand est-ce que la révélation se fait? Lorsque un homme parle à son ami. Je le redis en hébreu. Vaydaber Hashem el Moshe panim el panim kaacher lorsque yedaber ish el rei. Lorsqu'il y a relation de fraternité, alors il y a révélation. Ceci sur ce point. Alors, il est bien évident que notre analyse, elle doit être un peu, si vous voulez, sous forme de triangle. Et je reprends le thème qu'a cité Michel Prince. Tout est entre les mains de Dieu. Dieu crée tout. Là, il y aurait toute une analyse à faire pour montrer une autre différence entre la sensibilité chrétienne et la sensibilité juive. C'est que, alors que pour la sensibilité chrétienne en général, c'est tout ce qui n'est pas soumis au déterminisme qui nous vient de Dieu, alors que pour la sensibilité talmudique, c'est précisément à travers le déterminisme que ce qui nous vient de Dieu nous vient. Tout est entre les mains de Dieu, c'est-à-dire à travers les catégories du déterminisme, qu'il faut aménager, suivant les niveaux d'être, comme dirait Madame Amado, dans des conditionnements de plus en plus, en plus ou de moins en moins déterminés, mais tout vient à travers les lois du monde. Sauf une seule chose que Dieu ne peut pas nous donner, est-ce qualité, et donc réclame de nous, c'est l'amour du prochain. Pourquoi ? Parce que nous créons comme créature, d'emblée, il nous crée comme rivaux. Et donc il nous donne tout, et y compris la tendance à la rivalité, et ce qu'il réclame de nous, c'est la fraternité. Est-ce que c'est suffisamment clair ? C'est-à-dire que si nous restituons la catégorie créateur-créature dans cette catégorie et l'attachée, alors il ne s'agit plus d'une morale du volontarisme, de la volonté de Dieu. C'est le décret d'un maître divin qui est le bien. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit du fait que, me reconnaissant comme créature, je construis le projet moral en reconnaissant aussi l'autre comme créature. C'est ça la fraternité. La créature d'un même Dieu unique, et c'est pourquoi la morale ne peut être que monothéiste. Et effectivement, il n'y a que la conscience monothéiste qui va fonder la moralité est-ce-qu'elle-même. Exactement comme tu as dit dans la relation de l'amour du prochain. Et c'est quoi tout le récit biblique ? C'est la recherche de la solution de l'équation de fraternité. Caïn tue Abel. Et on part de là. Et on cherche où seront les frères capables d'être frères. Dès que ça se passe quelque part, Israël est fondé. Et c'est toute l'histoire qui passe à travers les patriarches pour arriver donc de nouveau à Joseph et ses frères. Et je pense que c'est pratiquement essentiel. Il y aurait énormément de choses à dire dans le détail, mais ce n'est pas le détail qui est important. C'est la grande avenue que tu as tracée. Je vous écoute. Oui, ils ne sont plus en colère. Hein. Là, il y a un petit coup d'un peu. Okay. Ah, c'est pas moi qui ai dit, c'est lui.
C'est le texte qui l'a dit.
Alors, j'ai dit, stop.
Si la crainte de Dieu est entrée dans, c'est-à-dire des visions fausses, c'est lui qui peut penser.
Voilà ce que la Gemara veut dire. La Gemara a posé la question suivante. Le verset dit, qu'est-ce que Dieu réclame de toi ? Uniquement, si ce n'est uniquement la crainte de Dieu. De respecter le Créateur, et nous avons vu que opératoirement, ça veut dire premièrement respecter la création. Comme création du même fait. La Gemara objecte. Comment tu peux dire uniquement ? Une vertu pareille, une valeur pareille, c'est colossal. Et tu pourrais dire que uniquement. Et d'ailleurs, je vais te démontrer, continue la Gemara, que c'est une chose très grande. La preuve, c'est qu'il y a un verset d'Isaïe qui dit « Hen irat Hashem mi otsaro ». Le trésor que Dieu considère comme le sien, c'est la crainte de Dieu. Donc, c'est une grande valeur. L'explication est la suivante. C'est la seule chose au monde qui lui appartient vraiment parce que ça vient de nous. Tout le reste, c'est lui qui l'a fait. On ne peut pas dire que c'est son trésor. Mais ce que nous lui donnons, ça, c'est son vrai trésor. Donc, c'est loin d'être contradictoire, il faut le remettre en logique hébraïque, si je veux. Vous me permettez un petit ridouche. À ce sujet, je vais d'abord le dire en hébreu. Et la Gemara répond, les gars, ve Moshe, mita zutratini. Par rapport à Moïse, c'est une petite chose. Alors il peut dire, lui, Moïse, qu'il la possède, cette vertu modeste. Il peut dire, après tout, qu'est-ce qu'on vous demande ? Une toute petite chose, le respect du Créateur. Alors, première lecture, dit la Gemara, oui, ça, pour Moïse, c'était une petite chose parce qu'il l'a. Et c'est là d'ailleurs que Michel a cité, que la Gemara nous donne la théorie de la valeur. Qui vaut au niveau de toutes les valeurs, même économiques. Si une grande chose, je la possède, c'est une petite chose. Mais si une petite chose, je ne la possède pas, ça devient une grande chose. Les lois du marché. Oui. Mais c'est vrai aussi au niveau des valeurs. Hein. Il y a une autre lecture. Parce qu'en araméen, les gabés mochés, ça veut dire à côté de Moïse. Quand Moïse est là, à côté de Moïse, c'est vraiment une toute petite chose d'avoir le respect du Créateur. Vous comprenez ce que je veux dire là hein. Vous avez un exemple de ce qu'on appelle un chidouche. Okay? On n'a rien changé au texte, mais c'est renouveler un renouvellement de sens. Il y a des hommes comme ça. À côté d'eux, on sait que Dieu existe. Mais il ne faut pas les prendre pour Dieu. Ça, c'est le mythe. Vous voyez Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, on va faire un peu ce... Ah, mais c'est toi qui dirige. Hein. Bon.
À propos de la langue qui s'adresse à son rachat, il dit, à comme la tumba, au bout de barbe, alors on dit,
Mais bien sûr, écoutez, et voilà le problème. Et je vais donner un exemple, je voudrais donner un exemple concret, je ne sais pas à qui je vais faire plaisir, mais enfin ça pourrait être dans n'importe quel corps de métier. C'est Dieu qui nous a fait ce monde. Et il fonctionne, bon, c'est toute une sagesse, toute une science pour savoir comment il fonctionne. Et puis, il y a une part qui est entre nos mains, c'est la moralité. Et donc, tout est déterminé, sauf le choix libre de l'entrée dans la moralité. Mais cette entrée dans la moralité libère les déterminations du monde. Je voulais simplement parler de ce que font les médecins. Tout est déterminé, mais voilà, le sachant ne le sachant pas, la maladie donc, le sachant ne le sachant pas, ils font un acte de générosité morale de libérer les hommes du conditionnement de la maladie. Mais c'est de la moralité qui est en opération. Et c'est vrai aussi pour tous les corps de métier. Et comme dit le verset, « Bechol derachecha da'eru » Dans toutes tes conduites, dans toutes tes fonctions, dans tous tes métiers, connais-le et libère les déterminations du monde. On a encore un autre exemple. Il y a une autre, c'est suffisamment clair. La Gemara dit dans une autre formule, « Akadosh Baruch Hu gozer at tzadik mevatel » C'est-à-dire, Dieu décide quelque chose et le juste annule sa décision. Et ça veut dire, dans notre langage, de notre problème, il y a des conditionnements, des déterminations qui arrivent, et puis voilà que l'homme moral, le juste, peut les dissoudre, ces conditionnements. Voilà un exemple que je tiens d'un de mes grands-mères, le Rav Abraham Epstein, de Renan de Bracha. Certains d'entre vous ont entendu ce nom-là, de Abraham Epstein, qui a enseigné en France aussi, mais qui est d'Israël. Il est mort maintenant. Eh bien, qui donnait un exemple simple, en disant ceci, voilà, quelqu'un est devenu pauvre, conditionnement, détermination, il n'y a rien pour rien, il est devenu pauvre. Et nous avons un commencement de moralité de lui faire la charité. Et en faisant la charité, on va contre la volonté de Dieu qui a décidé qu'il est pauvre. Eh bien, c'est comme ça que le Talmud dit. À Kadosh Baruch Hu gozer, il est devenu pauvre parce que le monde a fonctionné sous le regard de Dieu. Mais toi, l'homme juste, défais ce déterminisme, oppose-toi à la décision du Créateur. Et vous voyez dans quel sens je voudrais expliquer ces choses-là. Mais pour arriver d'ailleurs à une chose extrêmement élémentaire, c'est qu'il faut vraiment, pour comprendre la morale juive que nous a enseignée la Bible, revenir à des choses très élémentaires. Que la moralité, c'est d'abord la gentillesse. Si l'amour du prochain, ça ne commence pas par là, ça ne viendra jamais. C'est la gentillesse, des choses élémentaires. Je veux dire que faire du bien, ça fait du bien. Faire le bien, ça fait du bien. Faire le mal, ça fait du mal. Ces choses-là que nos mères nous ont apprises. Et à travers les siècles, c'est le grand message de la Bible hébraïque. Et seulement, voilà le problème du fondement. C'est que beaucoup de cultures disent la même chose, qu'ils l'aient appris des Hébreux ou pas, peu importe. Mais le fondement manque. Et lorsque le code de la moralité se présente comme civilité, l'ordre, politesse, utilité, l'intérêt de la société, mais que le fondement manque, la crainte du Créateur, la crainte, ça veut dire en hébreu, entendre, ira, ça veut dire aussi pahat, ça veut dire aussi parce qu'il est aussi juge, ça veut dire aussi crainte, mais ça veut dire le respect des valeurs. Et le respect des valeurs, c'est quelque chose d'extrêmement spirituellement fin, parce que la valeur peut tout contre moi, sauf une seule chose, que je suis capable de la violer. Et il faut énormément de pudeur morale pour ne pas violer la Yirat Shamayim, ça veut dire le respect des valeurs. J'ai donné souvent cet exemple que nos ancêtres, mais leurs ancêtres, les Gaulois, disaient qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais c'est ça, Yirat Shamayim. Parce que nos instituteurs de la Ligue de l'Enseignement nous ont mythifié cela. Mais c'était une grande vertu des ancêtres, les Gaulois. Ils avaient Yirat Shamayim. Et ils disaient ça comme ça, mais regardez comment on a traduit ça à l'école. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ils avaient Yirat Shamayim, Pashut. Okay? Et vous savez que cette religion, la druide, c'était une des rares qui était monothéiste et sans image. Bref, les rabbins du Talmud avaient beaucoup de respect pour les druides. Mais ce n'est pas une raison pour confondre Hanouka et Noël, c'est autre chose. Okay? Mais voilà ce que je veux dire, que dans les moments de crise des civilisations, si ce fondement de Yirat Shamayim craque, l'amour du prochain s'évanouit. Quelles que soient les garanties rationnelles, sociologiques, etc., qu'on a voulu donner entre-temps. C'est dans les moments de crise que, effectivement, la Torah retrouve son actualité.
Bon, la dernière question avant de conclure.
Vous avez d'autres patients à interpeller. Oui. Et l'israélienne de tout à l'heure n'est pas là, mais comme je suis israélien, je vais pouvoir répondre. Mais qui veut
simplement, avant de laisser la parole à M. Nazi, rappeler qu'il y a un ordre, bien sûr, l'amour à l'israélienne. Ce n'est pas par hasard que dans l'entrée dans la moralité, on commence par nous donner l'ira d'abord, la crainte de Dieu. Ça veut dire que ce n'est que si je sais que je suis dans un monde créé que je peux aimer la créature. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, cet amour sera fondé sur quoi? N'est que dans la mesure où je suis dans un monde où je sais que l'autre est également une créature, que cet amour sera valable. Si je commence par dire aimer, sans savoir qui j'aime, que j'aime quelqu'un qui est également une créature, il y a un risque. C'est pour ça que l'ordre est d'abord de reconnaître que je suis dans un monde où il y a Dieu, et à ce moment-là, simplement, l'amour est second dans l'entrée de la moralité. Par contre, lorsque on est déjà dans la moralité, je vous ai dit qu'il y a trois ordres. Dans le troisième ordre, on commence par dire « Vaharsa, tu aimeras ». Lorsqu'on est déjà inclus, c'est-à-dire que c'est un acquis, que je suis une créature et que je reconnais le Créateur comme tel, à ce moment-là, il n'y a plus le risque. Et donc, on commence par l'amour.
Et si je peux ajouter simplement une phrase de mon point de vue, je crois que lorsque l'homme chrétien est en situation d'amour, son amour est authentique. Et il aime et donc il accomplit la Torah. Il accomplit la Torah qui concerne tout homme en quête de la moralité. Ce que je voudrais ajouter, c'est que finalement, le problème de la relation à autrui n'est pas univoque. Il y a, je cherche le mot en français, il doit y avoir réciprocité. Alors, un amour qui ne serait que dans un sens, je crois qu'on dit amour gratuit, eh bien, il est authentiquement amour, mais il mène à la destruction du monde, parce qu'il n'y a pas réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a deux vertus complémentaires qui s'entraident pour que la relation à autrui soit authentifié. Parce que je suis le prochain de l'autre qui est mon prochain, mais c'est dans les deux sens. Et par conséquent, lorsque l'amour est gratuit dans ce sens-là, eh bien, il y a vertu de sacerdoce, il y a vertu sacerdotale, il y a chassidut, si vous voulez, dans tous les cas, mais il devrait y avoir amour moral. Parce que l'amour moral, fondement du monde et de la cité, doit impliquer la réciprocité. Peut-être que là, il y a une divergence entre nos deux traditions. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque l'homme chrétien aime, eh bien, il aime. Il n'y a pas trois façons d'aimer. Et je citerai ici un commentaire d'un rabbin de Djerba sur une Mishnah qui s'appelait Rabbi Chaim HaKohen, qui, sur une Mishnah du Pirkei Avot, et qui dit ceci. J'ai eu l'occasion de la citer à ce voyage, mais je ne sais pas si c'est avec vous. La Mishnah dit, le monde repose sur trois vertus, mais il faut qu'elles soient les trois à la fois. Al-Sloshadvarim ha'olam omed, al-Atorah, al-Ha'avodah, et al-Gmilut Chassadut. Le Rav Chaim HaKohen a fait un diouk, une précision extraordinaire. Il dit ceci, il faut la Torah, la vérité, la Avodah, le cul, et Gmilut Chassadut, la fraternité, la générosité, la relation entre l'amour d'autrui. C'est clair, mais il dit, la Torah est l'article, ha Torah, cette Torah n'est pas une autre. Ha Avoda est l'article, ha Avoda n'est pas une autre. Gmilut Chassadim, il n'y a pas d'article. Parce que ce n'est pas défini. N'importe qui est en situation de Gmilut Chassadim, c'est authentique. Lorsqu'une aime, lorsqu'une mère aime son fils, lorsqu'un fiancé aime sa fiancée, lorsque l'un aime l'autre, c'est Gmilut Chassadim. Il n'y a pas de Gmilut Chassadim juif et un Gmilut Chassadim goy. Par conséquent, lorsqu'un homme est en situation d'amour, eh bien c'est de l'amour authentique. Mais s'il n'y a que cette vertu, le monde se détruit, parce que la relation à autrui implique une hadadim, c'est plus précis que réciprocité, implique une, non pas l'amour sacrifice, mais l'amour fraternel. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais c'est tout de même. Ken? Non, non. Il y a quatre positions dans cette Mishnah. Okay. Il y a quatre positions dans cette Mishnah, et celui qui dit ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à toi, Zé Midat Rassidou, Zé Chomrim, Zé Midat Lo. Fais bien attention. Et justement, c'est Rassidou, Zé Midat Rassidou. Mais s'il y avait des psychiatres dans la salle, ils vous diraient mieux que moi que, c'est clair, tout donner, c'est un signe clinique. Bien, je crois que nous pouvons, s'il n'y a pas d'autres questions, nous donner la parole si nous avons quelque chose à nous dire.
Bon, je voulais simplement rajouter un mot sur ce qui vient d'être dit sur Freud. Effectivement, il fait allusion au fait que l'idée de « tu aimeras ton prochain comme toi-même » est une croyance absurde, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun fondement dans la personnalité humaine. Mais il confond très souvent, je crois, la vision grecque et chrétienne de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », la vision de caritas, d'agapé, d'un amour gratuit, d'un amour de générosité sans espoir de solidarité ou de récompense ou de réciprocité. Mais il ignore apparemment tous les commentaires rabbiniques très classiques qui sont très nuancés et sont très très définis sur la façon de préciser cette notion d'amour du prochain. Et quelle est la raison avancée par Freud pour donner un caractère absurde à cette croyance de l'amour du prochain établie de cette façon? Ce qu'il dit, que c'est de la négation des pulsions instinctuelles de l'homme, des tendances vers la haine, cet impératif moral empêche l'homme d'exprimer sa véritable personnalité. Or, la façon où les rabbins, à l'époque pharisienne, ont interprété les textes est beaucoup plus nuancée. Et tu aimeras pour ton prochain ce que tu aimes pour toi. Il ne s'agit pas véritablement seulement d'un sentiment, mais d'un projet dans les rapports sociaux. Et d'autre part, il y a dans l'interprétation rabbinique classique une place laissée au sentiment légitime des haines qui peuvent surgir dans certaines situations, chose qui n'est pas du tout admise dans le monde chrétien. Autrement dit, la haine n'est pas toujours nécessairement un sentiment négatif et immoral, il peut être nécessaire dans certaines situations. Le texte talmudique abonde dans les citations du sens « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », référence au prochain qui s'est conduit comme ton prochain, qui fait des actions à la façon de ton peuple, mais tu montreras ta haine vis-à-vis de ceux qui s'écartent de cette loi, et particulièrement ceux qui plonge la communauté dans les mensonges en matière religieuse ou philosophique. C'est là tout simplement pour dire, à mon avis, il y a là-bas confusion. Et c'est apparemment Freud lisant la Bible, tout simplement, qui arrive à cette conclusion. Mais la tradition hébraïque est infiniment plus nuancée de ce point de vue. Les exemples cités par les rabbins sur la nature exacte de la façon où cela se manifeste, me semble indiquer clairement qu'il y a reconnaissance de la complexité de la nature humaine, il y a une volonté d'établir une morale du possible.
On pourrait dire finalement que dans le christianisme, c'est l'amour qui est à l'origine de la justice, alors que dans le judaïsme, c'est la justice qui est à l'origine de la justice.
Si vous permettez, je ne répondrai pas vraiment la question que vous posez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il faut le simplifier, mais il faut du temps. Et je pense qu'il y a eu, dans la conscience chrétienne, on a privilégié comme voie du salut, si j'ose dire, et encore c'est pas bien exprimé, on a privilégié le sentiment, l'expérience d'amour, et je dois dire encore une fois qu'on arrive à des performances, et que la plupart du temps, on peut être en apprentissage de ce type d'amour, mais que la conscience, lui, c'est que une telle univocité, je ne sais pas comment dire, de la vertu est dévastatrice, parce que la relation à autrui demande la réciprocité. Et oui.
Je veux dire que le rapport d'histoire à propos de
la porte de l'autre, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Le passage sur le trésor sur l'eau est tiré d'un ouvrage qui est très sophistiqué, c'est Malaise dans la civilisation. Et là, je crois qu'il parlait du gouvernement en théorie d'extrapoler une certaine expérience, et il ne faut pas oublier deux points très importants. Dans les restes à faire d'Abraham, je crois que Freud était interrogé sur le continent. Finalement, quel est le fondement de votre travail? Freud dit, cette suite va de soi, mais qui n'est pas de l'autre. C'est-à-dire le respect de l'autre. C'est-à-dire le respect de la parole donnée. C'est-à-dire ce que tu disais tout à l'heure, ne pas faire de mal, non, faire ce qu'il y a de bien. Et tout cela, d'abord, il met en question ce qui est quelque chose de fondamentalement inévident en la psychanalyse. Pourquoi ça ne pense? Il y a une option pour la vie qui est inconsciente, qui est informulée, mais qui est tout à fait fondamentale. Je
voulais juste faire le... Très bien. Merci beaucoup. Ça me permet de dire en une phrase que j'ai eu le sentiment de nouveau, en écoutant Rosti et en écoutant qu'il y a un problème personnel de Freud qui a refoulé complètement son origine juive, et donc là il y a Maldon d'une certaine manière, mais peut-être qu'il a fonctionné aussi en juif. Je dis bien, c'est parce que...
Bon, j'ai trop de questions. Je n'ai pas une question, j'ai mille questions. Je ne sais pas très bien comment les résumer. Je vous ai dit déjà au début, d'abord, on m'a attribué ici un rôle difficile, un peu ingrat. Je suis le porte-parole des Grecs. Alors, j'aime bien les Grecs, mais finalement, je préfère quand même les Juifs. Donc, ce n'est pas tellement facile. Et là, à écouter ce qui a été dit ici, j'ai pu faire plusieurs réflexions. Je pense beaucoup à la phrase que citait mon voisin de droite à propos de mon voisin de gauche. Et qui disait que l'homme était naturellement athée et que Dieu était naturellement à homme et qu'il devait faire un effort. Il devait faire un effort, il fait un effort pour nous supporter, pour nous... Hein, pour avoir des moments de regret de nous avoir créés.
C'est écrit dans la Bible. Hein?
C'est écrit dans la Bible. Alors, je me demandais si finalement... je posais à mon voisin des questions, mais là, ça me demanderait peut-être... ça nous mènerait à une exégèse trop longue dans l'énumération qui nous a rappelé telle qu'elle apparaît dans le Deutéronome, craindre Dieu, marcher dans la voie qui nous indique, l'aimer, le servir, garder ses commandements. Il y a une relation hiérarchique, en fait, ça y a plutôt une progression logique. Il y a une progression logique, mais alors finalement c'est...
Hein? Opératoire.
Opératoire. Finalement c'est la crainte qui prend le dessus. Alors que chez les Grecs, et là je rejoins une question qui a été posée, l'amour va avoir tendance à se placer en avant-scène. Je crois qu'il y a là peut-être finalement deux voies qui sont non pas exclusives mais complémentaires l'une de l'autre. Elles sont complémentaires. Et là, il est peut-être un peu paradoxal que Freud nous sert de trait d'union, hein, lorsqu'on réalise la place qu'il a réservée à l'amour. Il faudrait peut-être réintroduire davantage l'amour. Je pense également au catalogue des vertus telles qu'ils nous apparaissent chez les stoïciens. Et aux comparaisons qu'on pourrait faire, elles ont peut-être déjà été faites. Je vous ai dit que j'étais un piètre philosophe entre les mitzvot et les vertus et la manière de pratiquer la vertu.
Pierre-Maxime Schull
a travaillé. Oui, je sais qu'il a travaillé là-dessus. Monsieur Schull pensait que Platon connaissait la Torah, et s'il ne la connaissait pas, il aurait dû la connaître.
Oui. Il méritait.
Mais, enfin, je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de voies qui ouvrent des perspectives parallèles, complémentaires, beaucoup plus qu'elles ne tentent à accentuer davantage ce qui nous sépare les uns des autres. Mais c'est peut-être un défaut personnel. Je suis personnellement pour la conciliation et non pas pour la bagarre.
Je vous permettrai d'être très brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. un peu avec réserve sur l'opposition un peu trop schématique, crainte chez les Juifs, amour chez les Grecs. C'est pas non plus si simple que ça.
Rien n'est simple dans cette affaire.
Je vais le dire un peu sous forme apologétique. Je crois que l'expérience de millénaires d'histoire montre que pour un Juif, accepter d'exister tout simplement, c'est qu'il est doué d'une capacité d'amour pour l'humanité entière colossale, étant donné ce qu'a été l'histoire.
Bien, je vous remercie. Donc, nous remercions vivement le conférencier qui ont bien voulu participer à cette séance, en espérant que la prochaine occasion sera donnée de nous retrouver tous ensemble.